France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, l'époque des Delerme. Épisode 1, Philippe Delerme le père, 30 ans après. Il y a quelques semaines, j'ai ressorti du placard un vieux caméscope de 1995 pour voir s'il marchait encore. Le bouton lecture était tout enfoncé et ne fonctionnait plus, si bien que j'ai cru d'abord que je ne pourrais jamais revisionner les petites cassettes HI8 entreposées dans une boîte à chaussures à côté. Heureusement, la télécommande, elle, répondait toujours. La pile n'avait pas coulé, et comme ma télé n'est pas toute récente, elle dispose encore d'une connectique ancienne, j'y ai donc relié directement la caméra, sans Bluetooth, mais avec un câble RCA, jaune et noir, et je me suis mis à regarder. Les images dataient d'il y a 30 ans, mais ne paraissaient pas si lointaines. Il y avait les fêtes de famille, les joyeux anniversaires, les essais de mise en scène plus ou moins cinématographiques, comme ce long travelling dans les rues de La Rochelle avec le caméscope qui dépassait de mon sac à dos. Évidemment, on ne voyait rien. Le visionnage était à la fois agréable et gênant. Agréable de revoir les moments en famille, de rigoler de nos bêtises, mais gênant aussi quand apparaissent à l'écran les adolescents que nous étions, dont on redoute à chaque instant qu'ils ne nous ridiculisent à 30 ans d'intervalle, et en général, ils le font. En fait, on retrouve immédiatement la grande peur et le grand désir de cet âge-là, se montrer, se dévoiler, se mettre en scène.
Vous avez fait une pub pour Justin Bridoux, n'est-ce
oui.
pas ?
Oui.
Vous faisiez Justin Bridoux.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie, à part de l'argent ?
J'ai appris à aimer le saucisson.
Cet après-midi, à regarder de vieilles archives personnelles m'avait rendu un peu nostalgique. C'est un drôle de sentiment, la nostalgie. On ne sait même pas si elle nous fait du bien ou si elle nous fait le contraire. C'est un peu comme d'écouter des chansons tristes quand on est triste. On est au courant que ça ne redonne pas le moral et pourtant, on n'a pas envie de mettre la lambada à la place. Je précise aux plus jeunes que la lambada, c'est le tube de l'été 1989, mais qu'il a été pendant des années le tube de tous les étés, et je le dis sans mépris pour la soca dance. Il faut bien reconnaître que la nostalgie, bien souvent, c'est un peu narcissique. On regarde de vieilles vidéos familiales, ou alors on revient sur des moments de bonheur collectif. Tout cela, à la fin, c'est quand même un peu se regarder le nombril. Toujours est-il que cet après-midi, à la fois exaltante et poisseuse à explorer le contenu de la boîte à chaussures, m'avait fait penser à un autre film, dans lequel on trouve également de nombreuses séquences familiales tournées au caméscope. Il s'agit du documentaire de Vincent Delerme, intitulé « Le cœur qui bat », dans lequel il demande à des personnes qu'il connaît de parler de leurs amours. Pas fou le Vincent Delerme, il n'a pas laissé de séquence de lui-même avec le son. Lui aussi, il avait dû raconter pas mal de n'importe quoi sur la bande. Dans ce film, on voyait à certains moments des images prises par Vincent adolescent dans la maison où il vivait avec ses parents. Ses parents, c'est-à-dire son père, Philippe Delerme, un écrivain devenu célèbre grâce à son livre « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules », et aussi sa mère, Martine, autrice et illustratrice pour la jeunesse. Une maison dont on découvrait qu'elle était un peu vieillotte, sauf que, oui, pardon, ce n'est pas seulement que la maison était vieillotte, c'est que 30 ans se sont écoulés depuis et ça donne un petit coup de vieux à tout.
Toi, tu t'es tombé amoureux plusieurs fois ?
Moi, ça a pris vraiment toute la place très tôt, quoi. J'avais des carnets, j'écrivais des prénoms de filles, je dessinais des cœurs en face, je mettais de côté des autocollants avec des cœurs, enfin, je disais, ah, cet autocollant, elle est trop beau, je le garde pour une autre fille plus tard, enfin...
Alors c'est vrai que la famille Delerme et les archives, ça va plutôt bien ensemble. On les imagine facilement, tous les trois, passer une après-midi à regarder de vieilles photos en méditant sur le temps qui passe, ou à revisionner des HI8, justement, qui appuient sur des cordes sensibles. Des critiques leur ont reproché, d'ailleurs, ce penchant pour la nostalgie. On a dit que cette tendance manquait d'ambition, d'exaltation, de souffle. Certains ont même suggéré que c'était un peu réactionnaire. Raphaël Sorin, par exemple, l'éditeur de Michel Houellebecq, ne mâchait pas ses mots dans Le Masque et la Plume du 4 janvier 1998 au sujet du livre de Philippe Delerme, Les chemins nous inventent.
C'est une apologie, alors que je n'aime pas du tout, de la résignation. Alors comme on est dans une époque où on se méfie l'héroïsme de tout ce qui est un peu exaltant, ce type se contente de trois fois rien, de petits plaisirs, il y a des retours à l'enfance permanents, il y a un texte sur le banana split par exemple, c'est écrit assez platement, le style est gentillet, ça ressemble à des dictées, et je crois que ça réveille chez les gens, effectivement, c'est rassurant, il n'y a pas de problème, ça gêne personne, il n'y a pas de mots compliqués.
Au passage, je me demande si on ne pourrait pas dire exactement la même chose des romans de Michel Houellebecq. Il est vrai, cela dit, que Philippe et Vincent Delerme ont vendu l'un et l'autre des centaines de milliers d'exemplaires, d'albums et de livres qui ont en commun de faire appel à la nostalgie. Leur succès raconte donc un peu quelque chose de qui nous sommes, nous, et de ce qu'est notre époque, avide de nous-mêmes et de ces petites choses qui font notre quotidien. Enfin, notre époque d'aujourd'hui, mais aussi celle de 1997, quand est sortie la première gorgée de bière, cet énorme succès de Philippe Delerme. Et ça, ça pose des questions. Par exemple, quelle est la corde que fait vibrer ce livre-là pour qu'une grande partie de la France s'y soit retrouvée? Et est-ce que son succès aurait été aussi grand 10 ans plus tôt, ou 10 ans plus tard, ou encore aujourd'hui? Enfin, cette nostalgie, que dit-elle des Delerme eux-mêmes? Tous les deux ont souvent été vus comme des poètes des bonheurs minuscules, de la joie paisible dans une famille aimante. Et pourtant, Philippe Delerme s'est toujours défendu de cette lecture trop joyeuse de son œuvre. Dans « Écrire est une enfance », un livre publié chez Albin Michel en 2011, il nous donne la clé de son désir d'écrire. Et vous allez voir que la nostalgie des moments heureux y prend brutalement une connotation plus dramatique. Dans le premier épisode de cette mini-série, nous allons nous intéresser au père, Philippe Delerme, sans oublier la mère, Martine, qui fait pleinement partie de ce trio artistique. Le deuxième épisode sera davantage consacré au fils, Vincent, même si au fond, on ne peut pas les séparer totalement. Les deux épisodes vont donc faire un tout, puisqu'on peut presque dire que ces trois-là, Martine, Philippe et Vincent, forment un seul et même artiste, un foyer principal au sens d'un feu qui brûle et dont les escarbilles allument des foyers secondaires.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ?
L'époque des Delerme, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Laure-Hélène Planchet.
Êtes-vous heureux ?
Attachée de production, Anne-Vanessa Prévost.
Nous sommes jeunes, il fait beau.
Claude Cavallero, vous êtes professeur émérite à l'université Savoie-Mont-Blanc de Chambéry. Vous êtes également écrivain. On vous doit le livre « Un printemps pas comme les autres » aux éditions Complicité. Et vous avez étudié l'œuvre de Philippe Delerme, à qui vous avez notamment consacré un colloque en 2012, dont les actes sont disponibles aux éditions de l'université de Savoie. Comment pourriez-vous d'abord nous décrire la littérature de Philippe Delerme ?
Eh bien, je dirais que c'est une littérature sensuelle. Une littérature qui, comme vous l'avez souligné, peut donner le sentiment d'évoquer des petits plaisirs sans grande importance, en définitive, mais qui, en réalité, gratte à l'os, je dirais, comme une aiguille s'enfonce un peu dans l'épiderme et va beaucoup plus loin que cela. Pourquoi ? Bien, il s'agit souvent d'un partage de sensations, d'émotions intimes qui nous renvoient très souvent à l'univers de l'enfance par le biais de réminiscences qui font d'ailleurs songer souvent à Proust. On pense au mécanisme de la mémoire involontaire. Proust, qui est un auteur qui compte beaucoup pour Philippe Delerme, et par ces petits plaisirs que l'on s'autorise, qui se dégustent à léger contretemps, à l'envers, en marche du rythme effréné de la vie moderne et de l'agitation du stress urbain, eh bien, par ce biais-là, on atteint une dimension critique du monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un assentiment au monde, c'est une observation quasi ethnographique qui est faite et qui nous permet aussi de réfléchir à la société contemporaine.
Mais qu'est-ce qu'il critiquerait finalement ?
Alors ce qu'il critique, c'est certaines hypocrisies que l'on trouve dans des phrases que chacun prononce à longueur de journée. Il y a des recueils éloquents à ces propos, comme « Ma grand-mère avait les mêmes », par exemple.
Et ça signifie quoi ?
Alors, « Ma grand-mère avait les mêmes », c'est la phrase banale que quelqu'un sort toujours lorsqu'on fait une brocante et que l'on découvre une vieille cafetière, des vieux bougeoirs, et puis des objets quelconques. Il y a toujours quelqu'un pour dire « Oh, ben, ma grand-mère avait les mêmes ».
Donc, au fond, c'est pas bien, c'est ça ?
Bon, disons que ça manque d'originalité et ça monte un côté un petit peu moutonnier dans ce genre de réflexion.
Je suis pas un moraliste, hein, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien cette idée de pouvoir surprendre les gens avec ce qu'ils connaissent le mieux, en fait. Et ça, c'est un art qui est pas très modeste, en fait, puisque c'est quelque part les étonner un petit peu.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la nostalgie, c'est la principale émotion à l'œuvre dans le travail de Philippe Delerme?
Je dirais en tout cas que cette nostalgie, ce n'est pas une nostalgie triste au sens de la mélancolie, si l'on veut. C'est une nostalgie plutôt lumineuse, quelque chose qui nous fait effectivement passer, basculer dans le passé et dans notre propre histoire. Mais c'est là l'occasion de prendre, je dirais, un nouveau point de départ pour, encore une fois, mieux comprendre et mieux jouir de l'instant présent.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 1997, quand paraît la première gorgée de bière, qui est un succès énorme, comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès? Et est-ce que vous pensez qu'au fond, la société française était prête à lire Philippe Delerme? Et au fond, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait cette correspondance, cette résonance entre la société française de 97 et ce livre-là?
Alors, je pense effectivement que ce succès est contextuel. Donc, un écrivain s'exprime évidemment dans une époque, et je pense que vers la fin des années 90, où l'on a tendance peut-être à privilégier des formats brefs du fait que l'on manque de temps pour lire, même si la France n'est pas réputée pour mettre en avant les récits brefs, les nouvelles, etc. C'est l'époque aussi des clips vidéo, par exemple, donc de format bref. Et ce n'est pas encore l'époque des réseaux sociaux, des posts sur les
donc
réseaux sociaux.
Donc une transition, donc, finalement,
voilà, je pense
vers
que c'était vraiment le bon moment.
Et en ce qui concerne l'idée que c'est une période qu'on a appelée la fin de l'histoire, ces années 1990, il n'y avait plus de guerre, la France allait relativement bien, est-ce que ça n'est pas une littérature qui correspond à cette époque-là?
Oui, je le crois en effet, parce que Philippe Delerme n'est pas un écrivain, en tout cas, qui prétend nous délivrer une vision globale du monde, au sens historique et idéologique que prend souvent cette expression. Il se sent un spectateur privilégié du monde en raison d'un goût longtemps entretenu pour la paresse et pour l'oisiveté. L'oisiveté qui n'est pas, si l'on se réfère à l'itimon latin osium, une posture passive, n'est-ce pas? Et donc, plutôt qu'une vision, qu'une explication générale du monde, Philippe Delerme nous propose davantage une manière de voir par petites observations du quotidien, un petit peu décalées, un peu à l'oblique, par le jeu de la flânerie, qui nous porte à considérer le monde dans lequel nous évoluons, mais pas en entrant par des grandes théories, si vous voulez.
Si j'ai choisi comme titre éponyme le Mojito, c'est précisément parce que je trouve que ce cocktail, il a une présentation physique qui est quelque chose de mystérieux. Enfin, c'est un vrai théâtre, là aussi, le Mojito, il se passe plein de choses avec ses feuilles de menthe. On a l'impression qu'on va dériver en apnée dans ces eaux qui sont un peu glauques et qui apportent une lumière au bout du compte.
Vous diriez qu'on est passé en littérature, et aussi parce que c'est comme ça que la société elle a évolué, du grand récit au récit de soi, et que ça dit quelque chose de l'évolution de la société, et que du coup, le succès de Philippe Delerme, il raconte aussi cela en 97.
Oui, je crois de toute façon qu'un auteur ne peut pas écrire hors époque. Ce n'est pas une chose nouvelle. Je suis la matière de mon livre, disait Montaigne dans une formule restée célèbre. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'écrivains pourraient revendiquer cette formule.
Je disais tout à l'heure que les Delerme constituaient trois déclinaisons d'une seule et même atmosphère artistique, d'un seul et même foyer. Eh bien, fouiller dans les archives semble donner du crédit, au moins symboliquement, à cette hypothèse. En effet, la première apparition de Philippe Delerme dans les archives remonte au 18 juin 1986, dans un reportage de Normandie Actualité, le journal local d'FR3.
J'habite dans un joli bourg en Normandie, tout contre une forêt, avec une rivière, une abbaye, tout ce qu'il faut pour attirer le parisien dominical. Ma maison est coquette, elle aime bien qu'on aime ses défauts. Elle n'est pas fonctionnelle et je bricole avec des mots. Nous sommes heureux ensemble. Je lui laisse son âme vieillotte et frondeuse. Elle m'abandonne en retour un décor nonchalant où ma vie se ressemble, chaque jour un peu plus depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je suis heureux, dans la précarité du sanitaire, l'humidité des murs et l'inconfort de tout. Je ne sais rien du bricolage. Au lieu d'exalter les ravages du salpêtre, je pourrais prendre la truelle. Cela m'arrange bien, mais je crois que le résultat serait désastreux.
Il se trouve que la première apparition de Vincent Delerme dans les archives, c'est également le 18 juin 1986, dans ce même reportage de Normandie Actualité sur FR3, où il apparaît enfant au fond de l'image. Il se trouve enfin que la première apparition de Martine Delerme, c'est toujours le 18 juin 1986, dans ce même reportage de Normandie Actualité. Et oui, dès le départ, ils sont présents tous les trois.
Martine, sa femme, comme lui professeur et aussi dessinatrice et écrivain, auteur pour sa part de deux ouvrages. Philippe et Martine Delerme ont construit avec leur fils un univers où la littérature, le dessin et la musique tiennent une grande place. Et cela, dans l'univers chaud de leur maison.
À l'image, on voit donc un petit garçon de 10 ans qui lit dans un énorme fauteuil marron, lequel pourrait en accueillir deux comme lui, c'est Vincent. On voit aussi une femme qui dessine sur la table du salon, c'est Martine. Et bien sûr, on voit Philippe, guitare en main, sujet officiel du reportage, même si au fond, c'est la famille qui est filmée dans son entier. Comme si la reporter avait senti qu'ils constituaient à eux trois une seule et même entité artistique et familiale, à part Vincent qui est encore un peu jeune, mais qui baigne pleinement dans cette atmosphère-là qui semble indispensable au tableau général. Ils se présentent donc d'emblée comme une famille. Cela peut sembler anecdotique, mais quand on y réfléchit, il est assez rare que des écrivains apparaissent dans des reportages avec leur famille. L'écrivain est plutôt en général représenté comme un solitaire. Or là, c'est toute la tribu qui est montrée, et ça n'est pas illogique d'ailleurs, car la famille et le quotidien sont au cœur de leur travail, c'est même l'un de leurs thèmes principaux. Mon hypothèse, c'est que cette atmosphère familiale des Delerme a contribué à l'écho qu'ils ont trouvé en France. Cette façon quotidienne et non héroïque de vivre et de voir le monde a séduit un grand nombre de Français parce qu'ils se reconnaissaient en eux. Claude Cavallero, on parlait de la correspondance entre l'œuvre de Philippe Delerme et l'évolution de la société. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi la montée tout de même de l'individualisme qui fait qu'on se recentre sur des questions qui sont des questions familiales justement, qui sont des questions qui relèvent plus de l'individu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu sociologique ici?
Oui, alors évidemment, il y a quelque chose de sociologique, comme vous le dites, et de globalement historique aussi, puisque si on se reporte à l'évolution sur le long terme de l'individualisme, c'est l'histoire de l'émancipation, c'est l'histoire de l'autonomie, donc il faut remonter aux Lumières pour éclairer vraiment d'un point de vue contextuel cette tendance. Et aujourd'hui, à notre époque, à la fois on peut observer un repli sur la famille, je ne dis pas que c'est le cas ici, et en tout cas le fait d'affirmer l'importance de ce bonheur simple qui est le bonheur familial, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans l'époque et qui, encore une fois, trouve une résonance et explique la lecture régulière et fidèle de nombreux lecteurs.
Alors dans ses livres, Claude Cavallero, Philippe Delerme utilise souvent le pronom « on » comme pour inclure le lecteur. Est-ce que ça signifie qu'il parle de nous tous quand il parle de lui-même, de sa femme et de son fils ?
Alors précisons que l'emploi du pronom « on » est effectivement stratégique dans l'énonciation des textes brefs. Il existe d'autres auteurs qui ont pratiqué le texte bref à la même époque, notamment Jacques Reda, Éric Holder et aussi François de Cornières, que Philippe Delerme aime beaucoup par ailleurs. Mais ce qui fait vraiment la singularité des textes de Philippe Delerme, c'est cet emploi du pronom « on ». Car « on », c'est à la fois le narrateur, bon, l'auteur, mais aussi le lecteur, et aussi, potentiellement, nous tous, n'importe qui. Donc, on se sent forcément concerné par ces textes. Et de plus, tout cela est souvent relaté avec humour, ce qui emporte d'autant l'adhésion du lecteur.
J'ai fait 13 livres avant la première gorgée de bière. Et donc, déjà à l'époque, j'avais envie d'écrire des textes courts. Mais on me disait toujours, mais non, on aimerait mieux quand même un roman. Parce que, voilà, pour exister en littérature... Sur ça, assez stupéfiant d'ailleurs. Il faut passer par les fourches codines du roman.
Oui, parce qu'en France, les nouvelles ne sont pas très prisées, contrairement aux États-Unis, par exemple.
Voilà. Alors, déjà, les nouvelles, on vous dit, c'est moins bien qu'un roman. Mais alors, des textes courts qui ne sont même pas des histoires, qui ne sont même pas des nouvelles, ça, c'était vraiment une marchandise, donc, qui était a priori invendable. Et c'était pourtant ça que j'avais envie de faire. Et j'ai mis très, très longtemps à l'imposer. Et ces 25 ans, m'ont été utiles, je pense, dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai peaufiné petit à petit une écriture, et je pense que ça semble être des sujets de chronique, effectivement, qui pourraient être presque plus des quotidiennes journalistiques, mais je pense qu'il y a à l'intérieur cette espèce de lenteur que j'ai mis aussi à trouver vraiment l'espèce de ténuité de l'aiguille qui permet d'attaquer le sujet, et donc je revendique comme un genre vraiment littéraire, dont je m'étonne, en fait, D'être un des seuls représentants, ou au niveau comme ça, de l'observation de la société en tout cas, à travers ce genre de texte, ouais, un peu seul.
Autre chose. Le décor de ce premier reportage d'FR3, c'est la maison des Delerme. Elle ressemble à une maison d'un autre temps, avec ses napperons, son bouquet de fleurs sur la table, son abat-jour artisanal, son buffet, ses chaises très droites, ses bibliothèques bricolées, son papier peint rouge, sa nappe brodée, la cafetière directement posée sur le brûleur de la gazinière. Un peu plus loin dans le reportage d'ailleurs, on se trouve dans leur cuisine en forme icarose passée, de la même couleur que le pull en laine de Philippe.
C'est bien dans les cuisines. Des choses se préparent lentement dans le désordre et les couleurs. C'est bien dans les cuisines, on fait toujours semblant d'être occupé. Mine de rien, on garde tout, les couleurs, les images. Et l'on cueille au passage les parfums de fenouil et les plaisanteries légères d'avant le souper. Pour moi, c'est la vraie pièce de bonheur.
Au fond, on pourrait presque dire que la maison elle-même, c'est le quatrième de l'herbe, comme on parle du quatrième Beatles. Et c'est seulement à moitié une blague. Du moment où on fait de l'art à partir des bonheurs et de la nostalgie de la sphère privée, on fait de son intérieur un personnage de l'histoire. La maison, la famille, le couple, l'amour, l'introspection, l'intérieur, quoi. Voilà le champ d'exploration des Delerme.
Quant à la mise en scène de l'habitat, de la maison normande que vous avez évoquée, je crois que cela met aussi en évidence l'attachement de Philippe Delerme à l'image. Et cet attachement à l'image, on le ressent à travers beaucoup d'ouvrages qui ont trait à la peinture ou à la photo.
À l'image, donc à l'organisation
à l'image,
de son intérieur.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une visualisation de cette nappe rose, la tapisserie rouge. En tout cas, il y a ce visuel qui est marquant et qui nous replonge aussi dans l'époque concernée. Et cela, je crois que c'est à mettre en relation avec un intérêt, une sensibilité très marquée pour l'image.
Même sans la première gorgée de bière, vous auriez été heureux, Philippe ?
En tout cas, quand j'écris ce livre, Le Bonheur, Talbot et Bavarda, j'avais 35 ans, je vivais avec une femme que j'aimais, je vivais avec un fils que j'aimais. Et quand on a la chance de pas avoir de gens, qui ont des gros problèmes autour de soi, que tous ceux qu'on aime sont là, c'est un bon âge de la vie. Je faisais un métier que j'aimais beaucoup être prof de lettres. Et j'ai éprouvé ce sentiment, j'étais traversé par l'image comme ça, en vacances, de voir Vincent, donc mon fils, et Martine, ma compagne, donc comme ça, par la vitre d'une location de vacances, et d'être... Tout d'un coup, alors que j'allais dire une connerie, comme souvent, parce que je suis plutôt un peu plaisantin dans la vie. Et tout d'un coup, je me suis arrêté, comme poignardé par l'instant. Et je me suis dit, je serai jamais plus heureux que maintenant. Et c'est un sentiment qui est terrible, je trouve. On est un peu poignardé par ça. Et j'ai écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Le bonheur, tableau et bavardage, et qui définit beaucoup plus justement, ma conception justement du bonheur, que l'addition des plaisirs minuscules. Et qui est un livre dans lequel j'ai donné ma définition du bonheur, qui est le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre.
En 1997, lorsque paraît la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Philippe Delerme ne s'attend pas à un grand succès public. D'ailleurs, en ce début d'année qui va consacrer le père, c'est d'abord le fils qui apparaît à la télé. Plus précisément, au journal de France 3 Haute-Normandie, il y figure pour sa participation au festival Par mots et par voix de Louviers, où il doit produire 12 chansons sous le pseudonyme de Vincent D. Autrement dit, avant même le succès de Philippe Delerme et de son livre La première gorgée de bière, le fils est déjà compositeur-interprète et il trace son petit bonhomme de chemin.
Un crayon, des feuilles d'écolier, un piano droit, il faut peu de choses pour créer une chanson. Vincent D écrit, compose, chante depuis l'âge de 16 ans. Ses souvenirs, ses sensations surgissent du quotidien, des rues, des cafés, des vacances.
C'est les vacances de février, sur l'autoroute, c'est pas le désert. On a retenu un chalet pour une semaine au sport d'hiver.
C'est un peu gênant de chanter en français. On s'expose, on se montre un peu à nu et puis... Oui, c'est gênant. Quand ça se passe mal, chanter en français, on a l'impression qu'on s'est un peu découvert et puis qu'on ne reçoit rien en échange, ça peut être très, très frustrant. Mais d'un autre côté, c'est peut-être plus vrai.
L'année 97 est donc celle de la consécration de Philippe. Et pourtant, il faut attendre le 17 mars de cette année-là, soit 43 jours après le reportage sur Vincent, le fils, pour que France 3 Haute-Normandie, toujours elle, consacre un sujet au père. Au passage, les journalistes ne viennent pas l'interroger sur la sortie de la première gorgée de bière, mais sur son livre « Sunborn » ou « Les jours de lumière ». Ce roman consacré à un petit groupe d'artistes scandinaves venus peindre sous la lumière d'Île-de-France vient en effet de recevoir le prix des libraires. Et c'est en tant que professeur, tout autant qu'écrivain, que la chaîne décide de le mettre en avant.
Écrivain et professeur de lettres, Philippe Delerme transmet sa passion de la littérature à ses élèves de quatrième. La chanson, forme contemporaine de la poésie française, permet de parler des sentiments, de saisir la portée des mots.
Pendant de nombreuses années, j'ai été professeur et écrivain sans que ça se sache parce que mes livres n'étaient pas encore publiés. Et je garde de toute façon cette activité, d'une part parce que ça m'est nécessaire. Le genre de littérature que j'écris ne rapporte pas suffisamment d'argent pour qu'on puisse en vivre. Et en plus, il se trouve que c'est un métier, sans doute le seul métier que je pourrais pratiquer, un métier que j'aime bien en fait.
Claude Cavallero, que vous inspire cette archive ?
Mais je la trouve très intéressante, effectivement. Philippe Delerme rapporte à plusieurs reprises à la fois le bonheur, sans doute, c'est le cas de le dire, de pouvoir pratiquer l'écriture parallèlement au métier d'enseignant, ce qui n'est pas forcément évident, mais aussi la souffrance liée au fait de ne pas pouvoir être publié, parce que ça a vraiment duré assez
longtemps. Ou de ne pas avoir de succès, ou de ne pas être publié ?
Alors, de ne pas être publié, déjà, pendant un certain temps, et ensuite de ne pas rencontrer le succès escompté.
Même si c'est amusant, parce qu'il dit là qu'il ne peut pas vivre de ses livres, et c'est vraiment juste quelques jours avant l'énorme explosion
de la première gorgée de bière.
C'est curieux. Le succès fulgurant des livres de Philippe Delerme ont fait s'interroger les critiques. Était-on là face à un genre littéraire nouveau ? Fallait-il lui trouver un nom ? Pierre Assouline, qui présentait en 2001 la matinale de France Culture, lui avait posé la question.
Mais pour autant, Philippe Delerme, est-ce que ce minimalisme, appelons-le ainsi, c'est un genre à part ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir ressusciter ou recréer ou trouver un genre ?
Non, recréer un genre, poursuivi des choses oui, qui existaient. Bon, après tout, les petits poèmes en prose de Baudelaire, ça existait. Bon, non, il n'y a rien eu d'inventé, mais simplement, il y a eu par contre, apparemment, bon, pour moi, la continuation d'un chemin. Moi, je vous disais, c'était ce que je voulais toujours faire, en fait. J'ai écrit des romans un peu par défaut, en fait, et avec l'espoir de pouvoir un jour publier comme ça. Bon, je ne sais pas comment aurait fait Colette aussi. Après tout, je trouve que les meilleurs livres de Colette sont des livres fait aussi de textes courts, on peut dire.
Mais vos textes, vous les qualifieriez de poèmes en prose ? Parce que vous avez cité Baudelaire.
Je refuse un peu le... En ce qui me concerne, je ne me sens pas poète, en fait. Le mot est, bon, me paraît un peu effrayant.
Et puis surtout, ce qui sous-tend tout ça, moi, j'ai l'impression que ce qui sous-tend tout ce que vous écrivez dans ces deux recueils, c'est la mélancolie.
Oui, ça c'est vrai. Et ça, je crois que c'est un petit peu une contradiction que vous avez bien perçue. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que souvent, à partir d'un certain succès, on a de vous une image assez réductrice. Et en ce qui me concerne, comme j'avais écrit un livre sur les plaisirs, on a cru y voir une définition du bonheur, ce qui n'était pas du tout mon cas. Pour moi, le bonheur, c'est tout à fait autre chose que l'addition des plaisirs minuscules.
Alors, dans Écrire est une enfance, ce livre qui est moins connu, au fond, de Philippe Delerme, et qui est un livre davantage autobiographique, il donne un petit peu la clé de cette mélancolie dont il parle et qui se cache sous l'impression de joie familiale dans ses ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, Claude Cavallero ? Qu'est-ce qu'il nous dit, au fond, dans ce livre-là ?
Alors, dans ce livre, Philippe Delerme développe pour la première fois, explique pour la première fois qu'il est arrivé dans ce monde comme un devoir de bonheur, dit-il. Un devoir de bonheur, c'est-à-dire qu'il est né après le décès d'une sœur aînée, décédée à la suite d'un bombardement pendant la guerre. Et son rôle d'enfant tombeau, c'est le nom que l'on donne en psychologie à un enfant conçu pour remplacer un autre enfant disparu. Philippe Delerme l'évoque également dans La vie en relief, plus tard en 2011. Il y a donc, dans sa quête perpétuelle présumée du bonheur, une forme de compulsion qui se traduit dans l'écriture. Donc j'ai relevé deux phrases significatives à cet égard. Il dit dans « Écrire est une enfance », l'écriture est toujours la traduction d'un manque. Alors bon, les psychanalystes l'ont dit, certes, mais il le prend vraiment à son compte. Et par ailleurs, dans « La vie en relief », cette disposition à goûter, sous-entendu les plaisirs du quotidien, etc., est indissociable d'une anxiété latente. Donc ça relativise effectivement l'image qu'on peut avoir de prime abord de l'écrivain des petits bonheurs du quotidien.
Dites-moi, il est maintenant presque plus connu que vous, Vincent Delerme.
Oui, c'est possible. Ben, parfois, oui, un petit jeu où on dit « Ah, maintenant, vous êtes le père de Vincent Delerme, etc. » En tout cas, je me dis que l'écriture de Vincent est quelque chose que j'aime énormément. Mais les gens ne me croient pas quand je dis que Vincent est mon chanteur préféré. Ben, voilà une bonne raison de penser que c'est le cas.
Vincent Delerme, le fils, a fait rayonner plus loin encore l'atmosphère familiale des Delerme, dont il est aujourd'hui le représentant le plus célèbre. Mais comment a-t-il réussi ce tour de force tranquille ? C'est ce que nous allons voir maintenant.